Le podcast qui suit est un podcast de Radio Librex, une chaîne de podcasts lancée fin 2020 par le Cercle du Libre Examen de l'ULB. En complément aux journaux, aux conférences et aux événements organisés sur le campus, le Cercle du Libre Examen propose des entretiens avec plusieurs intervenants et intervenantes où nous abordons des sujets et enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Et nous proposons un regard sur ces différentes thématiques. Ces podcasts sont disponibles sur le site de Radio Librex ou sur des plateformes comme Spotify, mais aussi, vous l'aurez compris, sur Radio Campus. Les épisodes sont publiés tous les mercredis à 23h et rediffusés le lundi à 9h sur 92,1 MHz FM en région bruxelloise. Bonne écoute! Pourquoi avons-nous l'impression qu'autour de nous, les femmes sont plus émues par les enjeux écologiques que les hommes?
Pourquoi avons-nous plus d'amis végétariennes que d'amis végétariens?
Pourquoi les éco-gestes que l'on connaît plutôt bien maintenant sont plus généralement adoptés par des femmes?
Pourquoi les figures de mobilisation climat sont majoritairement des femmes?
Ces questions nous trottent dans la tête depuis longtemps et elles nous ont amenées à une question plus large. Y a-t-il un lien entre notre genre et notre manière de prendre part à la lutte environnementale, notre manière de percevoir les enjeux écologiques ou encore la manière dont les conséquences de ces enjeux vont nous impacter?
Nous, c'est qui?
Je m'appelle Margot.
Je m'appelle Romane. Et nous avons réalisé ce podcast pour pousser plus loin notre réflexion sur le genre et l'écologie. Avant toute chose, nous tenions à préciser que dans ce podcast, on va parler d'hommes et de femmes de façon binaire. Mais on est bien consciente qu'il existe d'autres identités de genre. Il était cependant important pour nous de maintenir une distinction entre hommes et femmes pour pouvoir mettre en lumière certaines dynamiques et du coup comprendre les liens entre le genre et l'engagement face aux enjeux écologiques. On a commencé par faire quelques recherches pour voir si nos ressentis se confirmaient par des faits. Suite à ces recherches, on a notamment trouvé une étude réalisée dans 4 pays européens qui montre que les hommes ont tendance à polluer plus que les femmes. Ils mangent plus de viande, prennent plus la voiture et consomment globalement plus d'énergie. On a aussi lu un document d'analyse de statistiques de vote pour les partis verts européens qui montre que leur électorat est majoritairement féminin. On s'est également rendu compte que, à l'ULB, notre université, les personnes qui s'engagent pour l'environnement dans les cercles étudiants sont majoritairement des femmes. En effet, dans chaque cercle étudiant, il existe un poste spécialement dédié à l'écologie. Et sur 31 de ces délégués éco-responsables, 23 sont des femmes, soit 74% contre 26% d'hommes.
En fait, de façon plus générale, on a beaucoup lu que notre genre influencerait la probabilité que l'on adopte des pratiques éco-responsables. Et on s'est demandé ce qui pourrait expliquer cela. Pourquoi les femmes sont-elles plus éco-responsables que les hommes ? Et pour répondre à cette question, nous avons interrogé en avril 2021 deux femmes. La première que vous allez entendre est Nathalie Grandjean, docteur en philosophie et maîtresse de conférences à l'Université de Namur, également administratrice de SOFIA, un réseau belge d'études de genre et membre du comité de gestion du master interuniversitaire de spécialisation en études de genre.
Les femmes sont socialisées depuis qu'elles sont toutes petites à être celles qui vont prendre soin des autres, des plus vulnérables, mais aussi, de manière générale, de ce qui nous permet de vivre. Donc, je crois que ça, c'est sans doute, et ça, c'est un point de vue très féministe sur la question, mais qui est en même temps démontré par toute une série d'études. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait dire. Les femmes sont plus éco-responsables. Alors, vous me direz pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre écologie et soins des autres parce que ça, c'est sans doute un lien qui n'est pas forcément toujours très explicite ou expliqué. Moi, je dirais quand même que ces gestes éco-responsables, l'éco-responsabilité, tout ça est rentré dans le domestique, hein, justement par toutes ces dynamiques zéro déchet hein, qui sont apparues il y a quelques années, je dirais il y a 5-6 ans. Mais il y a aussi d'autres dynamiques qui sont apparues, notamment chez les dans le domaine de la maternité, donc chez les jeunes mères, enfin, jeune ou moins jeune mère d'ailleurs, mais en tout cas les maternités récentes, voilà, on a encouragé les femmes à allaiter longtemps, on a encouragé les femmes aussi à faire porter à leur bébé des couches lavables. Donc tout ça est rentré, si vous voulez, dans l'univers de la domesticité et du privé. Et donc il y a eu comme une espèce d'articulation justement entre ces gestes qui sont transmis comme ça, avec les femmes sont socialisées dans le soin des autres, à travers justement le soin des autres passe maintenant à travers le soin de la planète, quoi. Et les hommes, à l'inverse, vont plutôt alors, s'emparer d'autres, les hommes écolos, vont alors s'emparer d'autres pratiques co-responsables, peut-être faire du vélo, par exemple. On sait que les femmes, tant qu'elles n'ont pas d'enfants, elles font beaucoup de vélo en ville, par exemple. Si elles ont une sensibilité écologique, une fois qu'elles ont des enfants, ça devient très compliqué, ou alors ça demande tout un aménagement, un peu complexe, parce que ça veut dire aller faire les courses, ça veut dire aller rechercher les enfants, etc. Et donc, on voit en fait qu'il y a une redistribution des gestes éco-responsables à travers la division sexuée des tâches ménagères et de la charge mentale.
Selon les statistiques européennes, en 2016, 78% des femmes faisaient la cuisine ou le ménage au moins une heure chaque jour, contre 32% des hommes. Ces chiffres sont presque les mêmes depuis des décennies et on sait que la pandémie n'a pas aidé à les équilibrer. Quand on s'informe sur la manière dont on peut agir en tant que citoyenne ou citoyen par rapport aux enjeux écologiques, on est souvent ramené à certains éco-gestes ou gestes éco-responsables que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. Changer son alimentation, manger bio, local, végétal, de saison, diminuer son nombre de déchets, acheter des vêtements en seconde main, changer ses produits ménagers pour des produits plus écologiques. Changer la manière dont on cuisine, dont on fait la lessive, dont on lave la salle de bain, etc. Si ces gestes éco-responsables font partie des actions nécessaires à la transition écologique et témoignent d'une conscientisation grandissante par rapport aux enjeux environnementaux, la plupart d'entre eux concernent les tâches ménagères, qui aujourd'hui sont majoritairement assurées par des femmes. Nous avons également rencontré une deuxième intervenante pour parler de ce sujet. Elle s'appelle Éléonore Barlet, elle est coordinatrice au sein de l'association Agroécologie in Action et anciennement chargée de campagne et responsable des droits des femmes chez Amnesty International. Et encore avant cela, éco-conseillère au sein de l'association Le Monde selon les femmes.
Vous mentionniez juste là maintenant la question des gestes éco-responsables et que c'est aussi essentiellement les femmes qui les portent. Et en fait, la première chose qui me vient à l'esprit en parlant comme ça, c'est parce que les gestes éco-responsables, on parle souvent d'une nouvelle charge mentale pour les femmes. On parle de la question des serviettes hygiéniques lavables, on parle des couches lavables quand on s'occupe des enfants, la question du zéro déchet, tout ce que ça a comme contrainte et comme charge qui peut peser dans la tête et au quotidien pour les femmes. Et à mon sens, évidemment que c'est des mesures importantes, mais elles sont très individualisées et très dépolitisées. Et à mon sens, c'est quelque chose où je trouve que c'est un discours un peu faussé que le capitalisme a pu récupérer en individualisant le combat écologique. Et en fait, en reportant une large charge sur les épaules des femmes. Puisqu'en fait, là, quand on parle des éco-gestes, on parle beaucoup d'éco-gestes qui s'inscrivent dans le domaine de la sphère reproductive et de la maison, du foyer. Et donc, c'est prendre soin des enfants, prendre soin de la maison. Et donc, tout ça, c'est des choses qui renvoient en fait à cette sphère à laquelle on n'arrête pas de renvoyer les femmes en termes de travail domestique. Et donc, en fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces injonctions en fait, s'adressent essentiellement aux femmes aujourd'hui, et qu'elles se sentent d'autant plus responsabilisées, sans peut-être toujours voir le lien de cause à effet entre ces éco-gestes individuels et le fait que ça dépolitise du coup l'action politique générale à mener. Sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je pense que c'est bien de le conscientiser en tout cas.
Une étude publiée par l'Université d'Oxford a également démontré que les gestes éco-responsables étaient perçus comme féminins. Les personnes qui s'engagent individuellement pour l'écologie sont donc perçues comme plus féminines par les autres, mais aussi par elles-mêmes qui vont se sentir plus féminines. Dans cette même étude, il est démontré que ce constat peut représenter un frein pour les hommes à s'engager pour l'environnement. Pour moi, ça a vraiment été un déclic de me dire que les hommes refuseraient, par exemple, de prendre un tote bag plutôt qu'un sac plastique pour aller faire leurs courses, de peur que leur identité de genre soit menacée. Les stéréotypes de virilité représentent donc un frein dans l'engagement écologique pour certaines personnes, et les conséquences de ces stéréotypes sur l'écologie ne se limitent pas à bloquer certaines personnes à s'engager.
car dans ces stéréotypes, on retrouve souvent une idée de domination. Donc, tronçonner un arbre, partir à la chasse, manger un gros steak de viande rouge, tous ces comportements sont vus comme étant très virils et sont valorisés dans une société patriarcale. En fait, la nature est vue comme étant à disposition des hommes et ils la domineraient. Et dans le système patriarcal dans lequel nos sociétés évoluent, les hommes dominent non seulement la nature, mais aussi les femmes. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Ils ont plus de pouvoir, ils sont plus forts, ils sont plus violents, ils ne pleurent pas car les hommes ne pleurent pas. Ils ne s'occupent pas du foyer et laissent faire les femmes. Cette domination sur les femmes les amène parfois même à les considérer, elles et leur corps, comme étant à leur disposition. Et on en vient en fait à se demander une question plus globale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la domination des hommes sur les femmes et la domination des hommes sur la nature? Est-ce que pour repolitiser les luttes, comme l'a mentionné Éléonore, il ne faudrait pas repenser tout ça en termes de système et se poser les questions des différents liens entre les deux dominations?
Alors ça, c'est une réflexion qui est faite par les écoféministes, hein, cette idée qu'il y a un lien, donc pour répondre directement à votre question, oui, hein, il y a un lien entre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature, la domination des femmes et la domination de la nature. Et ça, c'est Françoise Daubonne, dès les années 70, qui... va en proposer un peu, en faire l'affirmation. Je ne sais pas si on sait qui est Françoise Daubonne. Françoise Daubonne, c'est une féministe française très radicale, dont d'ailleurs son ouvrage majeur, Le féminisme ou la mort, vient d'être réédité. Donc voilà, je recommande sa lecture à tous ceux et à toutes celles qui écoutent. Alors qu'est-ce qu'elle dit, Françoise Daubonne? Elle dit en effet, il y a un lien entre le patriarcat en gros et la domination masculine. Donc c'est-à-dire que plus qu'un lien, il y a même un rapport d'analogie ou de similarité, quoi. C'est-à-dire que parce qu'on domine la nature, on domine les femmes, et parce qu'on domine les femmes, on domine la nature, si vous voulez. Donc, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas une coïncidence, comme ça, tout d'un coup, il y a les femmes et il y a la nature. Non, ça va ensemble, en fait. Et ça, les écoféministes ont bien pensé. Françoise Daubonne, elle montre bien ça, en fait. Elle montre bien qu'il y a vraiment un rapport je vais dire un mot un peu difficile, mais un peu consubstantiel, c'est-à-dire un lien nécessaire entre ces deux dominations.
J'imagine que vous avez entendu parler des mouvements écoféministes. Donc voilà, c'est vraiment ce lien que font les mouvements écoféministes. On va parler au pluriel tellement ils sont nombreux et variés. Et donc je pense qu'en fait, si on pense en tant que si on pense à un système et non plus à une série de si on pense à la question en tant que système et fonctionnement d'un système, alors oui, on peut associer les deux dans le sens où on a essayé beaucoup, en tout cas dans notre culture occidentale, de séparer l'humain de la nature et plus précisément d'arracher l'homme à la nature, qui est un état naturel qui est en fait toujours jugé moins valorisé, moins valorisant, quelque chose dont il faut absolument se détacher. Et pour s'en détacher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dominer ou la dominer, la nature. Même si je ne suis pas hyper à l'aise avec les étiquettes de ce qu'on rattache au masculin, ce qu'on rattache au féminin, parce qu'il y a cette lecture binaire des choses qui, moi, me dérange, la nature et l'état naturel a beaucoup été renvoyé à la face des femmes pour les dominer aussi, puisque, en termes de pensée rationnelle, froide, analytique, etc., tout ça s'était renvoyé dans la sphère des hommes et très valorisé, pas dans la sphère des hommes, dans la sphère masculine et très valorisé, tandis que tout ce qui était plutôt de l'ordre de l'émotionnel, de l'instinctif, ce genre de choses, était plutôt ramené dans la sphère féminine et donc accolé à une prétendue nature des femmes. Et c'est un peu c'est ce que portent les écoféministes en termes de fondement. Donc je pense qu'on peut faire un lien, parce que moi, je m'en rapproche, et je pense que c'est une superbe clé de lecture pour en tout cas... comprendre un peu les enjeux.
La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Ces mots ont été écrits par le poète Charles Baudelaire au XIXe siècle. À cette époque, on dit aussi que les femmes sont trop nerveuses et hystériques pour un jour être impliquées dans la politique. La médecine dominante, exercée par les hommes, considèrent les femmes comme victimes de leurs ovaires et leur utérus, ce qui les rendrait irrationnelles et hystériques. Un peu plus tôt dans l'histoire, on retrouve un autre exemple pour lequel le lien femme-nature a été utilisé pour les discriminer. Ce sont les grandes chasses aux sorcières qui ont pris place en Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Les sorcières en question, c'étaient des femmes accusées de pactiser et copuler avec le diable. Considérées comme faibles de corps et d'esprit, elles sont censées faire des proies faciles pour ce dernier. Mais dans les faits, une femme pouvait être soupçonnée de sorcellerie dès qu'elle n'allait pas assez souvent à la messe, ou trop souvent à la messe, qu'elle se réunissait régulièrement avec des amis, ou au contraire qu'elle menait une vie trop solitaire, qu'elle répondait à un voisin, parlait haut, avait un caractère ou une sexualité un peu trop libre. Et comme l'explique Mona Chollet, autrice du livre « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses, un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi à l'époque. Elles fournissaient des filtres et des potions, soignaient les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Effrayées par ces pratiques qu'ils ne contrôlaient pas, les hommes au pouvoir associaient la sorcière à la violence de la nature et l'accusaient de tuer les enfants et de pactiser avec le diable. Les femmes soupçonnées de sorcellerie étaient alors dénoncées, pourchassées, torturées et exterminées, souvent en étant brûlées vives sur la place publique. Ces chasses ont fait des dizaines de milliers de victimes. On estime aujourd'hui leur nombre à entre 50 et 100 000 personnes.
Ce rapport de méfiance, de conquête, de domination, on le retrouve aussi dans le rapport à la nature. Mona Chollet explique que les chasseurs de sorcières de l'époque avaient également la théorie qu'il fallait soumettre la nature pour la forcer à livrer ses secrets. L'un de ces chasseurs écrit par exemple que la nature doit être réduite en esclavage, qu'elle doit être mise au fer et modelée par les arts mécaniques. Comme si il y avait à la fois une guerre à la nature et une guerre aux femmes.
À partartir du moment où il y a un patriarcat qui va s'en prendre nominément aux femmes, et à partir justement du XVIe siècle, XVIIe siècle, où vous avez ces importantes chasses aux sorcières, mais vous avez aussi la naissance du capitalisme, la naissance du colonialisme, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment avoir une économie de la plantation, c'est-à-dire une économie occidentale qui est tournée vers l'exploitation des terres outre-mer, vers la plantation de sucre, hein, donc vraiment les débuts du colonialisme. Et aussi la naissance de la science moderne, c'est ce que vont dire toute une série d'écoféministes. Vous avez là une espèce de concomitance ou de congruence, à la fois dans une de ces variations du patriarcat, qui va en même temps être aussi une transformation, ce patriarcat, vers une espèce de, on pourrait même dire, de patriarcat général envers la Terre, mais en tout cas de domination et d'exploitation de la Terre, c'est-à-dire de considérer la Terre comme une ressource. Donc on voit que la terre est considérée comme une ressource tant par son exploitation, notamment dans les territoires outre-mer, mais même aussi dans la transformation du rapport à la terre en Europe. Vous avez notamment en Angleterre la fermeture, ce qu'on appelle les enclosures, donc c'est-à-dire on ferme, les terres avant sont accessibles à peu près à tout le monde, à un moment les terres vont être fermées, c'est à partir du moment où ces terres vont être fermées qu'on va avoir vraiment des grandes inégalités sociales et que la chasse aux sorcières d'ailleurs va commencer. Donc vous allez avoir en même temps une haine des femmes et une haine des femmes libres, ça c'était notamment les sorcières, naissance du capitalisme et donc là aussi naissance, si vous voulez, d'une vision de la terre comme étant aussi une ressource à exploiter. Donc, tant la terre des territoires outre-mer qu'on exploite pour faire du sucre, que la terre ici des territoires européens, si vous voulez, qu'on va exploiter en termes industriels, donc sans regard aucun, sans respect aucun pour la terre elle-même. Et tout ça en concordance avec la naissance de la science moderne. Donc là, voilà, on voit vraiment qu'il y a des liens, je dirais, consubstantiels, qui ne doivent rien au hasard, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça nous permet de voir autrement, justement, tant le patriarcat que le ravage écologique, enfin, dans lequel on est, et qui ne date absolument pas d'hier, ni même de la Seconde Guerre mondiale, comme on a tendance à le penser, on a tendance à penser, finalement, que ce serait depuis on aurait eu un réveil, ou une espèce d'éveil, plutôt, à cause de la menace nucléaire, mais en fait, si vous voulez, c'est installé depuis très longtemps, quoi. Donc, depuis les temps modernes, nous avons déjà vraiment une articulation très forte de nécessité entre le patriarcat et l'exploitation de la nature, ou l'exploitation des ressources naturelles.
Historiquement, il y a donc un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation de la nature. Ok, mais du coup, on pourrait se demander qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on fait de ce constat et comment est-ce qu'on aborde le fait qu'il y a un lien entre ces deux dominations.
Je pense que c'est quelque chose d'interconnecté. Et donc, si on en déconstruit une de domination, déjà, il faut arriver à la déconstruire, on ne pourra pas s'en émanciper sans déconstruire l'autre. Donc, il faut détacher en fait tous ces fils et cette pelote de nœuds. À la fois sur la question de la domination masculine sur les femmes et la domination masculine sur la nature, quoi. Et l'un ne va pas sans l'autre.
Et alors, si l'une de ces dominations ne va pas sans l'autre, est-il possible de s'émanciper de l'une sans s'émanciper de l'autre ? Est-ce qu'il est possible de lutter contre la destruction de la nature sans lutter contre le patriarcat ?
C'est une très bonne question, hein. Et c'est une vieille question d'ailleurs. Par exemple, c'était une question que, donc dans les années 70, hein, vous savez ça probablement, ou si vous ne le savez pas d'ailleurs, c'est pas très grave, mais ce qui prévalait en termes d'analyse comme ça de domination, c'était le marxisme. Hein. Et donc les marxistes, dans les années 60-70, ils pensaient qu'une fois que la lutte des classes serait abolie, eh bien toutes les autres luttes finalement découlerait, quoi. C'est comme ça que dans les années 70, on a dit aux féministes, une fois qu'on aura fait la révolution, une fois que la lutte des classes aura abouti finalement à un renversement de l'ordre bourgeois, vous verrez, vous les femmes, vous n'aurez plus de problème non plus. Alors, ce qu'on a vu, c'est que d'une part, le marxisme n'a pas vraiment abouti à quelque chose de l'ordre d'une révolution, mais surtout, ce que les féministes ont bien compris dans les années 70, c'est qu'en fait, voilà, le problème des femmes était un problème quand même à part. Alors, pourquoi je dis ça? Pour dire que c'est pas si simple de penser qu'une, si vous voulez, faire aboutir une lutte va faire aboutir l'autre. Hein? Alors, même si on sait qu'en fait, toutes les luttes sont, entre guillemets, toujours articulées entre elles.
Le renversement de l'ordre bourgeois espéré dans les années 70 n'aurait donc pas pu suffire à libérer les femmes, même si la lutte contre les inégalités sociales et celle contre le sexisme sont liées. Nathalie explique avec cet exemple que l'oppression des femmes ne s'arrête pas si elle n'est pas réellement prise en compte et intégrée dans la, ou plutôt dans les luttes auxquelles elle est liée. On s'est alors demandé si, dans les luttes actuelles contre la crise climatique, une place était accordée aux questions de genre. Et c'est un peu la question qu'Éléonore s'est posée dans son analyse qu'elle a réalisée lorsqu'elle travaillait au sein de l'association Le Monde selon les femmes. Le titre de son analyse, c'est « Enquête sur l'intégration du genre dans les organisations de développement durable en Belgique francophone ». En gros, elle et ses collègues sont allés interroger des travailleurs et travailleuses de 14 organisations de développement durable et elles ont analysé à quel point la question du genre était prise en compte dans ces associations.
Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la réalisation de cette analyse-là, c'était vraiment voir que dans, par exemple, le corpus, entre guillemets, de travailleurs, travailleuses impliqués dans ces organisations-là, souvent on arrivait à quelque chose comme 50-50 en termes de nombre, 50% d'hommes, 50% de femmes. Mais quand on s'intéressait un petit peu plus aux répartitions en termes de rôle clé de pouvoir, alors c'est pas évident parce qu'en fonction des organisations, bah, ça fonctionne pas de la même manière. Là, il y avait quand même un peu plus d'hommes. Et alors, là où c'était vraiment flagrant, et c'était dans les conseils d'administration, qui sont quand même les organes là où se prennent les grandes décisions stratégiques, a priori, qui suivent le développement de ces organisations plus régulièrement. Dans cette analyse-là, on avait pu voir que les postes président, présidente ou vice-président, vice-présidente et trésorier, trésorière, qui sont des postes vraiment clés, étaient occupés dans une écrasante majorité par des hommes. Et alors, le seul poste dans les CA où c'était à égalité 50-50 en termes d'occupation, c'était secrétaire, quoi.
L'analyse d'Éléonore met en évidence que même dans des milieux de lutte pour la cause environnementale, où la question de justice sociale est souvent mise en avant, les femmes sont évincées des postes de prise de décision. Et cela se voit par exemple aussi dans la liste des auteurs et autrices des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont seulement 30% sont des femmes. et lors de la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est déroulée il y a quelques semaines, on comptait parmi les personnes enregistrées 65% d'hommes et 35% de femmes. Et au sein même de notre université, en fait, on retrouve une situation similaire. On expliquait tout à l'heure que la majorité des délégués co-responsables au sein des cercles étudiants sont des femmes. Mais par contre, dans les instances de prise de décision académique, on retrouve une majorité d'hommes. Si la vice-rectrice au développement durable est une femme, l'ensemble de son comité de conseil, c'est-à-dire les 6 personnes qui la guident dans ses décisions, sont exclusivement des hommes. Le fait que les femmes soient présentes en minorité dans les instances de décision pour lutter contre la crise environnementale semble paradoxal, puisque l'on sait que les femmes subissent la dégradation de l'environnement différemment des hommes. On sait que le réchauffement climatique détruit des écosystèmes et des vies, et que l'humanité entière est concernée, mais pas tout le monde est concerné de la même façon. Les plus précaires sont les premières victimes de la crise climatique. Or, actuellement, les plus pauvres sont majoritairement des femmes. Un rapport des Nations Unies que vous pourrez retrouver dans les sources de ce podcast a montré qu'à l'échelle globale, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Et dans ce rapport, il est aussi expliqué que 9 pays sur 10 prévoient des lois qui désavantagent les opportunités économiques des femmes. Il est aussi expliqué qu'à cause de cette situation et à cause de plein d'autres facteurs qui excluent les femmes des sphères politiques et socio-économiques, 80% des réfugiés climatiques sont des femmes.
Il faut aussi tenir compte de facteurs culturels, des stéréotypes de genre et des constructions sociales qui rendent les femmes plus vulnérables aux conséquences de la crise environnementale. On sait par exemple que dans de nombreux pays, les activités traditionnellement attribuées aux femmes sont particulièrement touchées par les changements climatiques. Par exemple, la recharge des provisions d'eau et de bois peut s'avérer compromise par les épisodes de sécheresse et la dégradation de l'environnement. Et c'est alors aux femmes de s'organiser pour pouvoir continuer leur activité, mais aussi et surtout pour éviter qu'elles et leurs proches ne meurent de soif. Un autre exemple assez parlant de la littérature écoféministe est celui du cyclone Gorki, au Bangladesh en 1991. 5 fois plus de femmes que d'hommes sont mortes dans cette catastrophe naturelle. Et une raison majeure qui explique ce ratio est le fait que le vêtement traditionnel que portaient les femmes les a contraintes dans leur mouvement. Elles étaient forcées d'attendre qu'un homme vienne leur porter secours. Et cet événement est loin d'être le seul où davantage de femmes que d'hommes ont été victimes d'une catastrophe naturelle. Jane Burkhard Goodall, une philosophe ayant mené des recherches sur l'écoféminisme durant plus de 10 ans, résume assez bien cette situation en disant ceci. Les stéréotypes de genre continuent d'associer aux femmes certaines caractéristiques aliénantes, affaiblissantes, et font que l'on apprend moins aux filles qu'aux garçons à nager ou à conduire, à se battre, à s'affirmer, à prendre et imposer des décisions ou des initiatives qui soient dans leur intérêt.
Il faut intégrer ces considérations sociales et culturelles dans la lutte environnementale, et donc il faut laisser les femmes prendre leur place dans les instances de prise de décision. Elles sont en effet plus concernées, car plus touchées. Et on en est même venu à se poser la question suivante. Est-ce que les changements climatiques continueront d'augmenter les violences faites aux femmes ?
C'est à cette question que l'on essaiera de répondre dans la deuxième partie de ce podcast. On se questionnera aussi sur les liens qui peuvent être faits avec d'autres oppressions et sur les stratégies de lutte collective.
Ce podcast est une collaboration entre le Cercle du Libre Examen de l'Université Libre de Bruxelles et Asbin, une ASBL qui veut rendre l'alimentation durable plus accessible aux étudiantes et étudiants.
Merci à Lucas pour son aide précieuse pour l'enregistrement et le montage de ce podcast. Merci Lucas.
Merci.
Merci à nos deux intervenantes, Éléonore Barlet et Nathalie Grandjean. Et merci à vous pour votre écoute.
Ici se termine le podcast de Radio Librex, Genre et écologie, lutte écologiste et justice sociale, première partie, est publié le 6 mars 2022.